Alors, lorsque nous pensons aux ressources inexploitées, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Les ressources inexploitées. Peut-être les champs pétrolifères de l'Alaska, peut-être les roches lunaires. On a fait des analyses aux roches lunaires pour voir si ça apporte une valeur. Peut-être d'autres minéraux spéciaux. Peut-être l'énergie marémotrice, peut-être l'énergie géothermique. Il y a des ressources inexploitées qui existent dans le monde, même chez les astéroïdes qui ne sont pas de ce monde. On aimerait extraire des métaux et on imagine que ça soit difficile, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe s'il se place sur une trajectoire de collision avec la Terre? Je ne sais pas. Je pense que c'est trop cher pour exploiter les astéroïdes. Mais que diriez-vous d'une activité peut-être un peu plus proche de chez vous? Il ne faut pas aller très loin. Vous n'avez qu'à effleurer du doigt une ressource inexploité de temps en temps. C'est l'esprit, n'est-ce pas? C'est notre propre raisonnement. L'exploitez-vous? Plus important encore, peut-être, permettons-nous à Dieu d'y puiser ou lui résistez-vous? À l'approche de la fête des pains sans levain, la Pâque aussi, nous consacrerons de temps à l'étude de la Bible, à la prière et au jeûne. Ce sont tous des outils formidables pour la croissance spirituelle, des outils que nous devons utiliser souvent. Récemment, j'ai observé quelques charpentiers qui montaient les murs du deuxième étage d'une maison dans notre voisinage. J'ai été étonné de voir qu'ils étaient capables de travailler pendant de longues périodes dans le froid et le vent, sans vraiment vêtements encombrants et même sans gants épais. Mais j'ai également noté, j'ai été très impressionné, par leur capacité à se tenir en équilibre sur les chevrons tout en passant d'un pistolet à clous à un marteau. Imaginons ça. Les charpentiers portent souvent des ceintures porte-outils et peuvent rapidement sortir un outil d'une main tout en utilisant l'autre main pour tenir une planche ou pour se tenir en équilibre lorsqu'ils grimpent. Et j'ai observé ça et j'ai pensé, avons-nous déjà porté une ceinture à outils? Peut-être vous avez eu cette expérience? Cela fait un certain temps pour moi, mais j'ai déjà porté une ceinture à outils à plusieurs reprises. En fait, lorsque j'étais enfant, j'aimais beaucoup me promener avec mon maître, mon marteau et mes tournevis à la ceinture. J'aimais beaucoup ça. La méditation fait-elle partie de votre trousse à outils, de votre ceinture à outils, ou est-elle un outil enfoui dans votre boîte à outils est difficile à trouver? Oui, la méditation. Utilisez-vous l'outil de la méditation comme vous utilisez les autres outils importants que sont l'étude de la Bible, la prière et le jeûne? Quiconque possède une boîte à outils sait que les outils qui ne sont pas souvent utilisés ont tendance à s'accumuler dans votre boîte à outils. Et ça devient difficile à trouver l'outil que vous cherchez. Mais la méditation est un outil spécial que Dieu nous a donné et qui nous permet de puiser dans notre esprit. Peut-être une ressource inépuisée ou inexploitée. La méditation permet également à Dieu d'entrer dans nos pensées de manière profonde et inspirante. J'espère que vous conviendrez que nous pourrions tous bénéficier d'une bonne utilisation de la méditation, un outil spécial pour la croissance spirituelle. Voici quelques passages pour commencer. Considérons Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, ce passage nous dit que Josué méditait la loi de Dieu jour et nuit. Il connaissait le succès et la prospérité, mais c'était lié à sa méditation. Josué chapitre 1 et le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ça commence avec la méditation sur la loi. Psaume 1 aussi. Considérons le psaume 1. Ce sont des indices pour commencer aujourd'hui. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Alors, aujourd'hui, ouvrons notre boîte à outils spirituelle et jetons un coup d'œil sur les instructions de la Bible concernant l'outil important qui est la méditation. Des millions de personnes ont lu la Bible, au moins une fois dans leur vie, mais combien d'entre elles réfléchissent aux mots qu'elles lisent? Et ça apporte aussi peut-être un rappel à nous aussi. Quand nous lisons la Bible, est-ce que nous méditons le sens et la signification? Dieu a des attentes à l'égard de ce qu'il a appelé. Les chrétiens doivent grandir en sagesse et en discernement afin de parvenir à une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. L'idée de prendre le temps de réfléchir, de méditer et de concentrer ou considérer est essentielle pour que nous puissions glaner des points spécifiques sur la croissance du caractère et l'intégrité. La méditation est si importante qu'elle figure dans notre nouveau livre sur vie, espoir et vérité en anglais, qui s'appelle « 5 outils pour la croissance spirituelle », toujours en cours de traduction. Mais il est également inclus dans le matériel de développement du leadership de l'Église comme outil spécial et essentiel. Le texte suivant est un extrait du manuel de leadership de l'Église. Ce que la Bible entend par méditation et ce que le mot véhicule souvent dans le monde moderne sont très différents. Historiquement, la méditation a été décrite comme une pensée dirigée sur un sujet spécifique vers un but spécifique. C'est la définition, je dirais, traditionnelle. L'édition de 1913 du dictionnaire de Webster définit la méditation comme une pensée étroite ou continue, la rotation d'un sujet dans l'esprit, une contemplation sérieuse, une réflexion, une songerie. Ces définitions sont toutes exactes pour comprendre l'usage biblique. Par contre, ou cependant, en raison de la popularité des religions orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme, la méditation a pris aujourd'hui un caractère mystique qui n'a rien à voir avec l'usage biblique. Donc voici quelques-unes des idées les plus modernes sur la méditation, et je souligne, qui ne correspondent pas à l'instruction biblique. Par exemple, la méditation est le processus de concentration consciente et contrôlée de l'esprit qui peut avoir lieu lorsque les personnes de pensée, à la fois en images et en mots, ont été interrompues. Notre exemple de quelque chose qui ne correspond pas à la Bible, la méditation est un ensemble de pratiques attentionnelles conduisant à un état modifié ou à un trait de conscience caractérisé par une conscience élargie, une plus grande présence et un sentiment de soi plus intègre ou intégré. Un autre exemple, la méditation est une concentration sans effort. Voilà, définition qui vient de ces religions orientales. Un autre exemple, la méditation consiste à calmer l'esprit, à l'éloigner des préoccupations quotidiennes de votre moi, parlant et à l'écouter intérieurement. Un autre exemple, la méditation consiste simplement à observer votre esprit sans aucune implication. Et finalement, la méditation consiste à rechercher le silence intérieur et à perdre le sens de la séparation. Ce sont des beaux mots, mais on doit se poser la question, d'où viennent-ils? D'où viennent ces mots? D'où viennent ces explications? Que l'on se rende compte ou non, toutes ces définitions sont dérivées des religions orientales et sont très différentes de ce que le mot signifie pendant de nombreux siècles. S'il vous plaît, ne vous engagez pas dans ce type de méditation New Age. Elle ouvre l'esprit à des influences spirituelles dangereuses. Par contre, lorsque nous... ceci vient de notre ressource de leadership. Mais lorsque nous considérons le Nouveau Testament, nous voyons l'exemple parfait de Jésus-Christ en toutes choses. Jésus citait souvent les Écritures au bon moment. La nourriture spirituelle, on dirait, au temps convenable. Cela montre qu'il méditait les Écritures, leur sens, et qu'il les avait à l'esprit lorsqu'il rencontrait des personnes et des situations différentes. Il est clair que l'apôtre Paul aussi méditait souvent les Écritures et que Timothée les connaissait depuis son enfance. On se souvient de Colossiens, chapitre 3 et le verset 16, la première partie du verset. Paul encourage les membres que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. C'est un extrait de Colossiens 3, verset 16. Ces exemples ne concernent pas seulement l'étude de la Bible, par contre. La lecture ou même la mémorisation. Ces exemples montrent plutôt les résultats de la méditation profonde et de la compréhension du sens et de l'application des Écritures. Ça va plus loin que l'étude biblique en elle-même. Je me suis toujours demandé ce qui se passait dans la tête de Jésus-Christ dans Jean chapitre 8, versets 6 à 9. C'est un moment intéressant parce que souvent, ce que nous observons chez Jésus-Christ, c'est la parole, la discussion, l'instruction. Mais ici, nous observons un moment de silence. Un moment de silence suivi, bien sûr, par une instruction très conséquentielle. Mais Jean 8 et le verset 6, Jean 8 et le verset 6, nous lisons, ici, en coupant dans l'histoire de la femme adultère, nous voyons un exemple de Jésus-Christ qui reste silencieux après avoir reçu une question piège. Jean 8 et le verset 6. Il disait cela pour l'éprouver. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Verset 5, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme, toi donc, que dis-tu? C'est ça, du verset 5. Et puis au verset 6, nous continuons, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Pour moi, ceci représente l'image d'une contemplation profonde et une déconnexion de la parole, une déconnexion de l'argument, même de cette accusation ou de ce piège. Donc, intéressant, il s'abaisse et il commence à marquer sur la terre. Et puis, verset 9, quand ils entendent dire cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Intéressant. Attendez, j'ai quand même sauté un verset. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Donc ça, c'était sa réponse au verset 7. Mais ce que je voulais juste souligner rapidement, c'est qu'il y avait un moment de silence où c'est comme s'il contemplait la situation, il méditait qu'est-ce qu'il allait dire. Et pour moi, c'est intéressant, cette image de dessiner sur la terre au lieu de répondre rapidement. C'est comme si nous avons tous la possibilité d'imiter cet exemple. Donc, avant de parler, méditons notre réponse. En particulier, quand la vie d'une personne est en jeu. Lorsque nous utilisons l'outil de la méditation dans notre vie, voici quelques aspects fondamentaux à prendre en compte. Rapidement, le temps. Il peut s'agir de quelques instants ou d'une période plus longue, mais il ne doit pas être perturbé, notre méditation. L'idée, c'est que on ne fait pas la méditation quand on est en train de faire toute autre chose. Le lieu, nous recherchons le calme et l'absence de distractions. Par exemple, lorsque vous conduisez sur une route dégagée et que la circulation n'est pas gênante, cela nous donne la possibilité de couper la radio et de méditer. Même la marche peut être un moment de méditation. Une étude récente a démontré que la marche dans la nature, vis-à-vis de la marche en milieu urbain, est très déstressante. Et puis la fréquence. La fréquence peut varier, mais le sabbat peut offrir au moins une occasion par semaine pour la méditation. En plus de ces éléments de base, et bien que cela ne soit pas souvent mentionné, je pense que la conversation même est un complément très utile à la méditation. Si nous avons médité, il est intéressant de parler avec un proche ou un ami en conversation de ce que nous avons médité, les idées que nous avons eues, et de suivre ou complément, comme un complément de la méditation. Même l'écriture et la tenue d'un journal intime peuvent également favoriser la méditation. Ce n'est pas la méditation en elle-même, mais c'est un complément à la méditation. Même les arts visuels peuvent même être une activité paisible qui peut offrir des moments de méditation. On pense peut-être à la peinture, le dessin, la gravure, la sculpture, la céramique, même les petits projets, d'autres choses aussi, l'artisanat, donc sont des opportunités pour méditer, même en faisant une activité avec les mains. Une réflexion approfondie sur un sujet, il faut y penser comme cela peut-être. Nous méditons sur le sujet de l'art visuel, mais qu'est-ce que cela fait aussi? Ceci nous prépare aussi pour la méditation pour la concentration nécessaire à pratiquer une réflexion approfondie sur d'autres sujets. L'idée de vraiment travailler, se concentrer sur un sujet, en fait, ça a beaucoup de bénéfices, y compris notre capacité de se concentrer et de méditer pour une période assez importante. Méditons sur quoi, par exemple? Mais considérons maintenant un élément très important, le sujet de la méditation. Sur quoi devons-nous méditer? Considérons Colossiens 3, Colossiens chapitre 3. Voici un bon départ pour répondre à cette question. Colossiens chapitre 3 et le verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est comme si cela représente un choix, un investissement de temps, d'énergie, de pensée et un changement peut-être de notre rythme ou de notre habitude de s'attacher ou de méditer les choses d'en haut. Il semble parfois que le monde nous remplit d'activités au point que nous ne prenons pas le temps de méditer. Activité et méditer ne vont pas toujours ensemble. Donc, des études récentes ont démontré que certaines personnes, en particulier les plus jeunes, sont presque effrayées par la perspective d'être déconnectées de la technologie et d'avoir du temps pour réfléchir. Chez les jeunes, souvent, on remplit la vie, le jour, avec l'activité et même l'activité de consulter un écran, de jouer ou de concentrer sur un écran, un appareil électronique. Aujourd'hui, on entend souvent dire que l'intelligence artificielle est l'avenir et qu'elle va tout révolutionner, de l'enseignement jusqu'à l'art. Mais l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer les avantages que nous, les humains, tirons de l'apprentissage, de la méditation et de la création de choses par nous-mêmes. Même l'acte de créer avec nos propres mains, avec nos propres idées, est bénéficiaire pour nous. Les gens ne semblent pas non plus se soucier de réduire la quantité d'énergie et de ressources que la computation derrière l'intelligence artificielle consomme. Les chiffres augmentent chaque jour. Même ça tire sur le réseau électrique. De la même manière, nous pouvons être facilement attirés par l'accès facile à l'information. J'admets que c'est fascinant de pouvoir trouver tant de réponses sur Internet. Mais, bien sûr, ça a été rendu très facile ou plus facile par le web et maintenant rendu encore plus facile par l'intelligence artificielle. Par exemple, j'ai fait une petite recherche et l'activité auquel l'intelligence artificielle est le plus dédiée, c'est la recherche par mots-clés sur Google et d'autres sites de recherche par mots-clés. L'utilisation la plus courante de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne est la recherche sur Google. Vous n'auriez jamais eu l'occasion d'accéder à une bibliothèque massive d'informations sur Internet avec quelques requêtes simples. Google Search utilise l'intelligence artificielle pour analyser les mots-clés, votre intention, le contexte et les recherches intérieures afin de déterminer vos besoins et les réponses qui suivent. Il peut fonctionner comme un assistant de recherche personnelle. qui connaît le type d'information dont vous avez besoin dans différents scénarios même. Donc, c'est déjà très puissant, très attirant, je dirais. Mais il y en a d'autres. Les autres utilisations, peut-être les plus populaires, sont des assistants numériques, des médias sociaux pour vous proposer, il faut contacter ton ami, il faut le fêter, souhaiter un bon anniversaire, des choses comme ça. C'est l'intelligence artificielle derrière toutes ces choses-là. Et puis, même votre GPS, votre Google Maps, pour déterminer la route pour aller au travail, pour rentrer chez vous. Tout cela dépend maintenant de l'intelligence artificielle. Même la reconnaissance des visages, hein, même les codes, la détection de la fraude bancaire dépend maintenant de ces choses. Le filtrage des courriels et la détection de ceux qui ne sont pas bons. Même la recommandation en matière de commerce sur le web aussi. Vous voyez, si vous faites ça sur Internet, que on va vous proposer certains produits, certaines alternatives, et on va vous envoyer peut-être un courriel après, ou chaque fois que vous consultez ce site, vous allez peut-être voir des suggestions. Tout cela dépend de l'intelligence artificielle. Comme vous l'avez probablement remarqué, tous ces domaines ne nous incitent pas à intensifier nos activités en ligne. Certains domaines semblent offrir un avantage, mais près de la moitié d'entre ceux que je vous ai mentionnés impliquent notre participation et donc l'utilisation d'un appareil. Au lieu de remplir chaque instant d'activité, ou de divertissement, nous ferions bien d'apprendre et apprécier les moments de calme et de contemplation et à puiser dans l'esprit que Dieu nous a donné. Donc, je pose encore la question que je vous ai posée déjà. Sur quoi devons-nous méditer? On a déjà vu beaucoup d'alternatives qui existent, mais que dit la Bible sur les sujets de notre méditation. Considérons Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Un verset qui résume beaucoup d'idées. Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Nous allons passer quelques minutes sur l'explication de ces mots parce que chaque mot est important pour classifier, pour évaluer, si vous voulez, notre méditation, les sujets de notre méditation. Philippiens 4 et le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est amable, tout ce qui est ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ou on peut même ajouter de votre méditation. L'esprit humain est toujours en train de penser à quelque chose, presque toujours. Si nous ne contrôlons pas les pensées qui nous traversent l'esprit, si nous ne maîtrisons pas les pensées, nous passerons inévitablement une partie de notre temps à penser à des choses mauvaises, peut-être moralement mauvaises. D'un autre côté, si nous entraînons notre esprit à penser d'une certaine manière, le cerveau crée des voies synaptiques, une inertie mentale, qui tend à nous faire continuer à penser de cette manière aussi. Si nous nous examinons ou si nous nous entraînons à penser aux bonnes choses, il devient plus facile à garder à l'esprit sur les bonnes choses. Donc ici, l'apôtre Paul nous résume beaucoup de choses. Chaque mot utilisé par l'apôtre Paul dans le verset 8 est significatif. Donc voici un résumé des références lexicales qui permettent d'expliquer chacun de ces mots. Donc ces explications sont tirées de références lexicales et ils étaient compilés dans le manuel de notre programme de leadership sur le verset 8. Et je voudrais vous partager ça aujourd'hui. Premièrement, le mot « vrai ». Le mot « vrai » vient du mot grec « aletē », qui veut dire « fiable »,« honnête », »,« le contraire de faux », »,« ce qui est conforme aux faits historiques même », »,« ce qui est réellement », »,« qui est réel et non imaginaire », »,« qui est véridique et honnête », et peut signifier aussi une personne intègre, le mot « aletē ». Donc, beaucoup de choses dans ce monde sont trompeuses et illusoires, promettant ce qu'elles ne peuvent jamais accomplir, offrant une paix et un bonheur spéciaux qu'elles ne peuvent jamais fournir. Un homme devrait toujours penser aux choses qui ne le laisseront pas tomber. Donc, la vérité. Passons maintenant au mot « honorable ».« Honorable ». Nous avons parlé de ce mot « vrai ». Le mot « honorable » dans le grec, c'est le mot « semna ». Une qualité qui rend les gens dignes de respect, utilisée dans le Nouveau Testament seulement par l'apôtre Paul. Digne, vénérable, noblement sérieux, se reportant à un comportement approprié, convenable et impliquant la dignité et le respect de bonne moralité. Donc ce mot « honorable », est-ce que nos sujets de réflexion, de méditation, est-ce que nous choisissons des sujets de méditation honorables? Il y a là l'idée d'une dignité ou d'une majesté qui est à la fois attirante et séduisante et qui inspire la révérence. Le mot honorable décrit vraiment ce qui a la dignité et la sainteté. Il y a des choses dans ce monde qui sont désinvoltes, et bon marché et qui attirent les esprits légers, mais c'est sur les choses sérieuses et dignes que le chrétien se concentrera. Donc le mot « honorable » décrit-il nos pensées, nos méditations, nos sujets de méditation? Et puis le mot « juste »,« dikaia », le mot « juste »,« dikaia » dans le grec, ce qui est droit ou juste, conforme aux normes de Dieu et donc digne de son approbation. Ce qui est conforme à ce que Dieu exige, doit, ce qui est approprié ou juste dans le sens d'être pleinement justifié. Donc ce mot honorable. Les Grecs définissaient l'homme dikaios comme celui qui rend aux dieux et aux hommes ce qui leur est dû. En d'autres termes, « dikaios » est le mot qui désigne le devoir assumé et le devoir accompli. Il y a ceux qui pensent au plaisir, au confort, à la facilité. Le chrétien, lui, pense à son devoir envers les hommes et envers Dieu. Donc, tout est lié à cette explication du mot « juste ». Du mot « juste ». Maintenant, nous avons discuté « vrai »,« honorable » et « juste ». Passons maintenant au mot « pur ». Est-ce que nos sujets de méditation sont purs? Je pense qu'aujourd'hui, si nous considérons les résultats de recherche qui peuvent se produire sur l'Internet, on sait qu'il y a beaucoup d'impuretés qui existent dans ce domaine. Malgré la quantité de personnes qui se servent de cet outil qui devrait être très utile et très fascinant, très appropriées. C'est comme si nous n'avons pas l'intérêt de purifier l'Internet. Je sais que c'est lié à l'expression libre, la parole, les choses comme ça, mais quand même, il faut que chacun s'occupe de chez lui pour faire de son mieux, pour protéger ses enfants, pour protéger soi-même d'être exposé à l'impureté sur ces outils de recherche que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Mais le mot pur, le mot agna en grec, agna, chasteté, morale, qualité de la pureté morale sans défaut moral. Dans un certain nombre de langues, le sens de agéa et agnotes est exprimé de manière idiomatique. Par exemple, avoir un cœur pur, purifier notre cœur, purifier nos pensées ou ne pas dissimuler ses véritables désirs. Le mot agnos décrit ce qui est moralement non souillé, donc dans une sorte de pureté blancheur. Lorsqu'il est utilisé à ses fins cérémonielles, il décrit ce qui a été tellement purifié qu'il est apte à être mis en présence de Dieu et utilisé à son service. C'est lié au mot agia ou le mot saint, l'idée d'être mis à part pour quelque chose qui peut servir à Dieu. Donc, beaucoup d'hommes mettent leur esprit dans un tel état qu'ils salissent tout ce à quoi ils pensent. Nous pouvons arriver dans un état de pensée où nos idées, nos réflexions sont contaminées, impures, à cause de notre passé. L'esprit du chrétien est fixé sur des choses pures. Ses pensées sont si propres qu'elles peuvent même résister à l'examen de Dieu. C'est notre objectif dans la pureté de nos pensées, et en particulier nos sujets de méditation. Maintenant, passons au mot aimable. Aimable, ce qui est agréable, c'est le mot prosphilé en grec. Prosphilé, ce qui est agréable. Souvenez-vous du mot filio, filia, l'idée d'aimer ou d'avoir l'amour fraternel. Donc, aimable, prosphilié. Donc, prosphilé, ce qui est agréable, plaisant ou aimable. Ce qui favorise l'amour, ce qui fait que les gens sont contents de quelque chose. Attachant. Est-ce que nous pensons à, en général, en positif ou en négatif? Est-ce que nous sommes en réflexion critique ou réflexion positive sur les choses que nous apprécions? C'est aussi quelque chose à évaluer dans nos méditations. Ça ne veut pas dire que méditer les besoins de corriger certaines choses n'est pas utile, mais est-ce qu'il y a un équilibre dans nos méditations? Après, qui mérite l'approbation, c'est le mot grec euphéma, qui veut dire attrayant, ce qui est digne d'éloge, attrayant, et ce qui est conforme aux normes les plus élevées. Parler de quelque chose en termes favorables, faire l'éloge, dire du bien, gagnant, gracieux. Est-ce que nos sujets eux-mêmes de méditation méritent l'approbation? Est-ce que nous cherchons à donner des louanges, à donner des remerciements, à démontrer notre appréciation envers d'autres? Et en même temps, est-ce que nos propres sujets de méditation méritent l'approbation? Est-ce qu'ils sont dignes? Il signifie littéralement « parler juste ». Mais il était spécialement lié au silence sacré qui régnait au début d'un sacrifice en présence des dieux grecs. Ce mot vient de là. Il n'est peut-être pas exagéré de dire qu'il décrit les choses qui sont dignes d'être entendues par Dieu. L'idée que Dieu écoute nos pensées devrait nous aider à voir des sujets de méditation qui méritent l'approbation. Maintenant, le mot « vertueux », les sujets vertueux sont excellents, une qualité d'excellence morale, bonté exceptionnelle. Dans la pensée classique, il décrivait tous les types d'excellence. Il pouvait décrire l'excellence du sol dans un champ. Il y a une excellente plantation ici, une qualité de sol, de terre. L'excellence d'un outil pour son usage, l'excellence physique d'un animal. Cet animal va bien servir à la ferme. C'est vertueux dans ce sens. Le mot, c'est arrêter. Arrêter. Donc, l'excellence de cet outil, l'excellence du courage d'un soldat, par exemple, ou la vertu d'un homme. Donc, les choses vertueuses sont à méditer. Et finalement, digne de louange. Digne de louange. Epaenos. Ce qui est digne ou mérite d'être loué. Parler de l'excellence d'une personne, d'un objet, d'un événement. Louange correspondant à la valeur morale de la vertu. Et puisque nous parlons de définition, voici quelques définitions utiles du mot « méditer » qui est traduit ici « l'objet de vos pensées ». Le mot en grec, c'est « logizeste ». Logizeste. L'idée de penser à quelque chose de manière détaillée et logique. Logizeste. Intéressant, c'est lié à la parole et la pensée en même temps. Le présent est un impératif moyen pour les habitudes de pensée. Nous sommes responsables de nos pensées, de nos méditations, et nous pouvons les soumettre à des idéaux élevés et sacrés. Lorsque vous devez décider si vous devez admettre quelque chose dans votre esprit, voici ces critères que nous devons utiliser pour juger. Donc, voilà, vraiment du détail sur un verset, mais j'espère que cela nous inspire à examiner dans les semaines à venir. Voilà, un sujet d'examination, c'est nos méditations. Si nous passons du temps à méditer, je dirais que on est souvent prédisposé à méditer quand on n'est pas content, n'est-ce pas? On va passer plus de temps, je ne suis pas content, je vais juste rester là et penser à tout ce qui ne va pas. Ou je vais penser à tout ce que j'aime pas par rapport à ma sœur ou mon frère, par exemple. C'est là souvent où nous sommes attirés par la méditation. Mais ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est que la méditation doit s'élargir. Nos pensées, nos sujets de méditation doivent correspondre pour avoir de l'efficacité, pour avoir, je dirais même pour être édifiant pour nous, il faut examiner même les sujets de méditation. Non pas seulement le lieu, le temps de méditation, mais le sujet. Le sujet, ça rapporte un petit peu quelque chose que je vous ai mentionné par rapport à la prière. Nous pouvons examiner nos prières aussi dans la même façon, mais nos sujets de méditation. Et Paul nous donne un verset qui résume tellement d'idées, n'est-ce pas? Ça fait tout un sujet d'examiner dans les mois ou dans les quelques semaines à venir. Donc, en outre, un esprit rempli de ses pensées sera un esprit heureux et stable. Si nous évaluons notre méditation et si nous mettons en pratique les instructions bibliques concernant la méditation, notre objectif final ou l'objectif de Dieu, c'est de nous donner un esprit heureux et stable. Si nous ne sommes pas stables, nos sujets de méditation vont varier Hein, ils vont changer de jour au jour, ils vont se concentrer sur les mauvais sujets, ils vont changer avec le temps, on va dire. Mais nous avons la possibilité de choisir, nous avons le contrôle de soi, hein, nous pouvons choisir. Il ne faut jamais dire que je ne peux pas arrêter ma pensée. Non, Dieu nous a donné la possibilité, même si ça prend du temps, de contrôler, de maîtriser nos pensées et nos sujets de méditation. Donc, nous avons déjà mentionné les exemples de Jésus-Christ lui-même et de l'apôtre Paul. Et à l'approche, que ça soit ce printemps, que ça soit en automne, mais à l'approche des jours saints en général, nous devons méditer sur la signification de chaque fête de l'Éternel. Pas seulement écouter ses sermons ou lire les versets ou regarder quelque chose, mais vraiment passer du temps avec nos propres pensées pour méditer la signification de la fête, méditer les leçons de ces fêtes de l'Éternel, méditant aussi son impact sur nous et sur les autres. Je trouve toujours que le processus de préparation pour la fête des pains sans levain me donne en particulier une bonne occasion de méditer. Vis-à-vis d'autres fêtes de l'Éternel, je trouve vraiment le fait de nettoyer et dépoussiérer, faire le tri de toutes ces choses pour préparer la maison pour la fête des pains sans levain me donne davantage de temps pour méditer. Alors que je suis en train de dépoussiérer, je suis en train de nettoyer un petit peu, mais même cette activité manuelle me donne aussi une sorte de déconnexion de mes habitudes et de mes de tout ce qui se passe pour faire quelque chose et méditer la signification de ce que je fais. Au lieu de dire, oh, il me reste combien de salles à nettoyer dans ma maison. Oh, je suis tellement épuisé. Mais qu'est-ce que je médite quand je fais cela? Est-ce que je suis dans la joie du Seigneur? Est-ce que je suis content de pouvoir avoir accès au pardon de mes péchés et de pouvoir changer mes habitudes, de ne pas être condamné à les répéter? Donc, voilà, des sujets de méditation. Maintenant, pourquoi, si on réfléchit, si on médite ces choses, pourquoi? Pourquoi devrions-nous consacrer du temps à la méditation? Ce n'est pas vraiment un commandement, après tout. Alors, est-ce que c'est facultatif ou au moins à nous de décider quand et comment méditer? Je ne dirais pas que la méditation est facultative, frères et sœurs. Dieu nous laisse simplement une grande marge de manœuvre pour décider pour nous-mêmes comment et quand utiliser cet outil. Il faut se servir de cet outil avec sagesse, avec intention, avec une pensée intentionnelle. Donc, quoi qu'il en soit, la Bible identifie des avantages spécifiques à la méditation. J'en ai quelques-uns, ce n'est peut-être pas une liste complète, mais voyons quelques exemples. Nous pouvons ainsi profiter de tous les avantages de cette vie chrétienne, ce que Dieu nous offre. La méditation nous permet, je dirais, de profiter de tous ces avantages si nous méditons de la voix de Dieu, la voix chrétienne. Au psaume 119, il y a tellement d'avantages qui sont listés ici. Je voudrais passer quelques moments au psaume 119. Parce que ici, nous trouvons une liste d'avantages. Une liste d'avantages pour pouvoir profiter pleinement de l'instruction divine, de la loi de Dieu, les préceptes, les jugements, les commandements de Dieu, on en profite avec de la méditation, en les intégrant dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit. À partir du verset 97, nous avons une petite liste ici entre le verset 97 et le verset 105. On va y procéder verset par verset. Psaume 119, verset 97. « Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Donc, un très bon indice, n'est-ce pas, sur quoi il faut méditer. Verset 98. « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. » Donc, il y a un avantage, il y a un bénéfice ici. On peut en profiter si on pratique la méditation, car je les ai toujours avec moi. Ça, c'est intéressant. Comme nous avons mentionné pour Jésus-Christ, pour l'apôtre Paul, il les avait en eux en tout temps, à la tête, à l'esprit, les commandements, l'application à chaque instant, à chaque situation, au lieu de faire ma façon, voilà comment je fais, ou j'ai lu un bon livre de comment traiter ces situations. Non, au lieu de faire tout ça, il s'appuyait sur les commandements. Ils les ont gardés toujours avec eux. Verset 99, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » À ma méditation. C'est intéressant, si notre enfant rentre chez nous et se déclare, « Maintenant, je suis plus instruit que mes maîtres. » Mais on va dire aux enfants, « S'il te plaît, de ne pas dire ça à ton enseignant. » Ce n'est pas l'objectif de ce commandement, de ce verset. Ce n'est pas de se déclarer devant ton enseignant à l'école que tu es plus sage qu'elle. J'espère que ce n'est pas compris comme ça. Mais l'idée, c'est que nous avons accès à une connaissance que d'autres n'ont pas chez eux. Donc, le verset 100, « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » 101, donc il y a l'intelligence qui est liée. Verset 101, « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. » Donc, les mauvais chemins nous amènent vers le mal, n'est-ce pas? L'idée de méditer et de garder à l'esprit la loi de Dieu, c'est pour nous éviter le trépas dans ce sens. Verset 102, Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Nous devons reconnaître l'Éternel comme notre instructeur, comme celui qui nous enseigne, celui qui nous fait prospérer, celui qui nous démontre ou qui nous explique comment faire, comment vivre, comment traiter les uns les autres. On le place dans sa place où il est déjà. Donc, nous reconnaissons sa place dans notre vie. 103, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Donc, on peut avoir du plaisir aussi à méditer la loi de Dieu. Ce n'est pas censé être dur et contre nous et jugemental, des choses comme ça. Ce n'est pas censé de nous décourager. Ça nous donne comme le miel à la bouche. Je ne sais pas si vous aimez le miel, mais c'est une sensation très douce. 104, par tes ordonnances, je deviens intelligent aussi. Je hais toute voix de mensonge. Donc, non seulement nous accumulons de l'intelligence, mais nous apprenons à ne pas aimer les autres choses. C'est une distinction entre le bien et le mal, le mensonge. Nous pouvons détecter, discerner les mensonges. Et il y en a plein aujourd'hui, n'est-ce pas? Et finalement, nous allons toucher au verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, très imagé. Mais l'idée, c'est la parole de Dieu nous guide, nous permet de marcher sans être comme les yeux fermés, sans être aveuglés par tout ce qui est ténébreux autour de nous. Donc, voilà un avantage pour la méditation. Deuxième avantage, Dieu peut donc puiser dans une ressource peut-être inexploitée aussi. Qu'est-ce que je voudrais dire par rapport à ça? L'idée d'apprendre, l'idée de réfléchir, l'idée de méditer nous donne la possibilité de recevoir de l'inspiration aussi. Nous avons un temps, un créneau horaire dédié non seulement à la prière, à l'étude, mais à la méditation dans laquelle Dieu peut nous révéler le sens. Il peut nous instruire sur comment appliquer un principe ou un sujet, un précepte dans notre vie. Donc, ça peut approfondir tout ce que nous faisons, le reste. Les autres outils sont très importants aussi, n'oublions pas ça. Mais ici, nous avons un atout, nous avons quelque chose qui ajoute aux autres outils. Donc, même si vous méditez et réfléchissez, vous pouvez toujours commettre une erreur. Nous pouvons tous commettre des erreurs. Mais peut-être nous pouvons reprendre pour éviter que cette erreur ne débouche sur quelque chose de plus grave si nous pratiquons la méditation. Donc Dieu est capable de nous guider lorsque nous méditons profondément. Ainsi, nous pouvons éviter les offenses, les trépas, et rester acceptable pour Dieu, l'idée d'être juste et acceptable devant lui. Considérons le psaume 19. On est au psaume maintenant, 119. Maintenant, le psaume 19. Le psaume 19. Psaume 19. Et au verset, en français, c'est au verset 15. En anglais, c'est le verset 14. Le verset 15 en français. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Donc, l'idée d'être acceptable devant Dieu, que les paroles de la bouche, de notre bouche soient acceptables, même les sentiments de mon cœur, les réflexions, les méditations profondes de mon cœur, que ces choses deviennent, si vous voulez, de plus en plus acceptables, qu'on travaille là-dessus pour identifier ce qui va pas et le remplacer avec le bien. Avez-vous déjà entendu dire du modèle iceberg pour les accidents qui arrivent au travail? Je ne sais pas si vous connaissez ce sujet, mais lorsqu'un accident se produit, il y a souvent de nombreux facteurs cachés sous la surface qui ont conduit à l'accident. Et un bon marin va vous dire que l'iceberg que vous voyez qui est loin est beaucoup plus grand en dessous de l'eau, n'est-ce pas? Et peut toucher à bien d'autres choses qui sont invisibles à l'œil nu. Donc, un bon marin peut vous dire d'éviter, pas avec un petit contournement, mais avec un gros détour, les icebergs. Parce que ce que nous voyons quand on considère les icebergs, c'est juste la surface. Mais la partie en dessous, qui est dans l'eau, est beaucoup plus gros, et ça veut dire que ça peut toucher au bateau, n'est-ce pas? Donc, l'idée quand on étudie les accidents, c'est que, voilà, nous observons un accident au travail. C'est ce que nous avons à identifier comme accident. C'est visible, quelqu'un s'est fait mal, c'est arrivé. Mais le problème, c'est tout ce qui est en dessous de l'eau, tout ce qui est en dessous de la surface, tout ce qui a produit l'accident. Tout ce que nous ne voyons pas sans piocher, sans examiner, sans aller plus loin. Et l'idée de ce modèle, c'est de nous encourager de ne pas s'arrêter avec ce que nous voyons devant nos yeux, mais d'examiner les choses qui sont nombrables en dessous de l'eau, dans l'eau, sous la surface. Donc, dans notre propre vie, il va de même pour les erreurs que nous commettons, les trépas, des choses que nous pourrions considérer peut-être comme accident à première vue. Cependant, si nous méditons vraiment sur notre conduite et nos pensées, peut-être nous arriverons à voir les choses sous la surface, les choses qui nous mettent en danger et qui mettent aussi les autres en danger. Récemment, malheureusement, un vol aux États-Unis d'avion commercial s'est écrasé sur un hélicoptère dans la ville de Washington, D.C., peu avant qu'un avion régional d'America Airlines et un hélicoptère de l'armée n'entrent en collision près de l'aéroport national Reagan. Les pilotes de l'avion ont été invités à changer d'itinéraire d'atterrissage pour passer d'une piste à l'autre. Et j'ai écouté les enregistrements moi-même, mais je vous lis quelques paroles d'un article. Dans les derniers instants du vol, les contrôleurs aériens ont demandé au pilote de l'avion d'effectuer un atterrissage en cercle, en allant tout à droite sur une autre piste, la piste 33. Selon la personne qui a été informée de l'événement et de deux autres personnes connaissant bien le trafic aérien de l'aéroport, cette décision est habituelle lorsque les avions régionaux, tels que l'avion d'American Airlines, sont impliqués, et elle peut avoir été prise pour aider à maintenir un trafic aérien efficace et évitant d'encombrer la piste principale. Mais la question qu'on n'a peut-être pas médité avant de prendre décision, et je ne suis pas en train de blâmer, hein, mais est-ce qu'on a médité l'impact de ce changement de piste dans le moment? Est-ce qu'on a bien analysé le besoin de changer de piste et l'espace qu'ils allaient prendre? Est-ce qu'ils ont bien médité avant de faire quelque chose de routine? Et c'est ça qui nous perturbe peut-être de temps en temps, la routine. Est-ce que nous sommes dans une routine ou est-ce que nous méditons nos choix? Certaines routines sont extrêmement bénéficiaires, mais d'autres pensées routines risquent de nous impacter, et c'est l'imprévu qui nous impacte le plus, n'est-ce pas? Sinon, on n'aurait pas pris ce choix, n'est-ce pas? C'est l'imprévu. Donc, on ne peut pas le voir si on fait le raisonnement naturel, le réflexe. Et ceci pour nous encourager, frères et sœurs, de ne pas tomber dans une routine de pensée, mais de permettre la méditation d'orienter notre pensée et d'orienter même nos conclusions sur certains sujets, sur certaines idées et certains comportements. On aurait même pu analyser un peu plus le niveau d'encombrement de cet aéroport national Reagan pour limiter le trafic, limiter le nombre d'avions au lieu d'augmenter de plus en plus le nombre d'avions fréquentés par cet aéroport. Donc, cet article que j'ai utilisé pour vous illustrer ce point montre qu'il existait des facteurs cachés qui ont contribué à la catastrophe. Ce n'était pas juste quelque chose qui s'est produit. On voit le tip, la petite partie du iceberg, mais il y a beaucoup plus de choses en dessous, sous la surface. Donc, cela signifie-t-il qu'un accident ne se serait jamais produit? Non, mais l'identification et la prise en compte de ces facteurs non visibles en première vue, réduisent le risque d'accident. C'est l'une des façons dont la méditation peut être utile. Et je vous en ai donné quelques-unes, mais il y en a bien d'autres aussi. L'esprit lui-même, l'esprit ici, est un don extraordinaire. Je dirais un don que nous n'apprécions peut-être pas assez, que on dirait même que c'est peut-être inexploité. Et il faut veiller à ce que notre esprit ne soit pas une ressource inexploitée. C'est un don, c'est un cadeau de l'Éternel, le pouvoir de réflexion et de méditation. C'est même mentionné dans la Bible que Dieu a mis l'éternité dans notre cœur. C'est ça, l'esprit dans l'homme qui nous sépare des animaux. C'est Dieu qui nous a donné ça. Et il l'a donné non seulement pour l'avenir, mais pour maintenant, pour qu'on s'en sert maintenant, pour méditer les choses profondes. En fait, avec le temps, il ne devrait plus s'agir simplement dans notre esprit, mais il devrait ressembler de plus en plus à l'esprit même que Dieu nous apprend à imiter, l'esprit, la mentalité de Jésus-Christ. À l'approche de la Pâque et la fête des pains sans levain, cette période d'examen de conscience, de soi, rappelons-nous que la méditation n'est pas seulement un outil facultatif dans notre boîte à outils spirituelle. Elle est essentielle pour se rapprocher de Dieu, pour grandir en sagesse et pour développer un caractère divin. Utilisant la méditation pour exploiter l'incroyable potentiel de notre esprit, et ce faisant, invitant Dieu à exploiter nos cœurs et nos pensées en nous guidant dans notre croissance spirituelle.